Les enjeux internationaux.
En binôme avec Thierry Garcin et Michel Etchaninov, philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine.
Et Michel Etchaninov, bonjour. Vous avez choisi comme thème l'Eurasie de Vladimir Poutine, rêve de philosophe, puissance émergente, point d'interrogation. Si Vladimir Poutine est philosophe, moi j'ai mes chances alors.
Bonjour Thierry Garcin, merci beaucoup de m'inviter. L'Eurasie, c'est en effet au départ une idée, un concept. Elle devient idéologie et puis ensuite elle devient peut-être réalité politique. C'est ce qui m'a intéressé ce matin avec cette notion. L'Eurasie, vous le savez, c'est cet ensemble qui unit l'Europe orientale et l'Asie centrale. Et Poutine en parlait déjà dès l'année 2000. Mais au fil des années, il critique de plus en plus ouvertement les valeurs d'une Europe occidentale qu'il juge décadente. Et il fait de l'Eurasie son grand projet pour contrer à la fois l'Europe et les États-Unis. Aussi déclare-t-il en revenant à la présidence de la Russie en 2012, lors de son discours d'investiture, je cite Vladimir Poutine, « Nous avons suivi ensemble un chemin long et compliqué, nous nous sommes mis à croire en nous-mêmes, en nos forces, le monde a vu la Russie renaissante. Nous avons tout aujourd'hui pour aller de l'avant, vers où demande-t-on ? » Poutine répond « Devenir le leader et le centre de gravité de toute l'Eurasie. » Alors sur cette lancée, l'Union économique eurasiatique voit le jour début janvier 2015, il y a un an. Elle doit aboutir à la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services, à un grand marché et pourquoi pas à une monnaie unique. Cet ensemble regroupe la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie, le Kyrgyzstan, mais pas l'Ukraine. Les médias proches du Kremlin célèbrent la naissance d'un nouveau pôle de puissance qui dominerait l'Union européenne et qui s'opposerait à la puissance américaine. L'idéologue Alexandre Dugin célèbre un empire de la terre qui viendrait enfin combattre l'empire de la mer anglo-saxon. Mais depuis que la Russie s'est isolée à la suite de l'annexion de la Crimée et alors qu'une grave crise économique touche le pays, où en est le rêve eurasiatique de Vladimir Poutine? Pour en parler, une spécialiste de la Russie et de l'Asie centrale, Marlène Laruelle, diplômée des langues eaux, actuellement professeure à l'université George Washington aux États-Unis. Son dernier livre, La Russie entre peur et défi, co-signé avec Jean Radvani, sortira chez Armand Collin le 24 février. Bonjour Marlène Laruelle.
Bonjour.
Ou plutôt bonsoir, car vous êtes en direct avec nous de Washington. Alors, Marlène Laruelle, au départ, l'eurasisme, si je ne me trompe, c'est un courant philosophique créé par des intellectuels russes au début du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, l'eurasisme originel, en fait, est apparu dans l'immigration russe des années 20-30, aussi bien à Prague, à Paris qu'à Berlin. Et c'était un groupe de jeunes immigrés qui voulaient, d'une certaine manière, dépasser la nostalgie tsariste de leurs aînés et qui ont défini ce concept que vous avez très bien présenté au début de la Russie et de ses marges impériales comme étant un troisième continent, ni Europe ni Asie, qu'ils ont nommé l'Eurasie. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il est assez typique de ce qu'on trouvait à l'époque dans les années 20 et 30, c'est-à-dire c'est une idéologie de la troisième voie, un courant relativement fascisant ou proto-fasciste qui refusait aussi bien le communisme que le capitalisme, qui disait célébrer le culte du leader, le culte des idéologies radicales, l'État corporatiste. Donc c'est vraiment né dans ce contexte très typique des années 20-30.
Et aujourd'hui, Marlène Laruelle, on connaît plus Alexandre Dugin, vous savez ce prophète barbu au regard azur qui promeut l'eurasisme et qui fascine d'ailleurs une partie de l'extrême droite occidentale. Est-ce que Dugin est un héritier de cet eurasisme-là des années 20?
En fait, très très peu. Il s'y réfère d'ailleurs lui-même relativement peu. Il a d'autres références idéologiques qui sont probablement plus importantes, en particulier tous les grands théoriciens de la nouvelle droite européenne. Dugin, c'est vraiment l'intellectuel qui, dès le début des années 90, a réintroduit en Russie toutes les grandes théories de l'extrême droite européenne et de la nouvelle droite, Alain de Benoist, Jean-François Thiriard, Claudio Muti. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un grand partisan d'Heidegger et de la réhabilitation d'Heidegger en Russie. Donc c'est quelqu'un qui est à cheval sur les théories de l'extrême droite et les théories de l'eurasisme et qui prône ce que vous avez défini comme cette géopolitique du continentalisme, cet axe Paris-Berlin-Moscou.
Et aujourd'hui, venons-en au projet de Poutine. D'abord, pour bien comprendre, l'Union eurasiatique, est-ce que c'est un projet personnel de Poutine ou est-ce qu'il l'a emprunté à d'autres dirigeants, notamment dirigeants d'Asie centrale?
En effet, vous avez raison de le mentionner parce que c'est un peu, d'une certaine manière, l'ironie de l'histoire. C'est que le premier à avoir proposé une Union eurasiatique, c'est en fait le président kazakh Nursultan Nazarbayev qui avait évoqué le sujet avec exactement cette terminologie d'Union Eurasiatique dès 1994. Et à l'époque, Boris Yeltsin, président de la Russie, était absolument peu intéressé au projet. Donc le projet était tombé dans l'oubli et c'est Poutine qui le fait ressurgir de ses cendres en 2011.
Et quel pays Poutine voit-il dans cette Union Eurasiatique ? Est-ce qu'il voulait vraiment que l'Ukraine en fasse partie ?
Oui, absolument. L'Ukraine était un peu la cerise sur le gâteau de l'Union Eurasiatique. C'était vraiment... L'Ukraine a toujours été considérée par les élites russes comme une partie prenante de cette Eurasie pour des raisons économiques, des raisons historiques, des raisons politiques. Donc la perte de l'espoir de voir l'Ukraine entrer dans l'Union Eurasiatique depuis la crise de fin 2013-2014 a d'une certaine manière mis en péril le futur de l'Union Eurasiatique sur sa longue durée.
Alors venons-en maintenant au bilan, à un point d'étape. Ça fait un an que cette Union Eurasiatique a été lancée, avec les pays qu'on a dit, hein, Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Kyrgyzstan. On attend peut-être le Tadjikistan, une ancienne république soviétique d'Asie centrale. Où en est-on du point de vue politique, économique, un an après ?
Alors les résultats sont en fait extrêmement mitigés. Sur le plan économique, on a vu que les échanges entre les pays membres avaient augmenté et que les échanges économiques de ces pays avec les pays voisins et en particulier avec l'Occident avaient baissé, ce qui n'est pas en soi un bon signe parce que ce sont des pays qui ont vraiment besoin de la technologie européenne. Mais en fait, on a du mal à juger les résultats économiques à cause de la crise économique, des sanctions, de la chute du pétrole. Donc les chiffres sont difficiles à analyser. Ce qu'on voit très nettement, c'est le scepticisme qui est en train d'émerger, en particulier au Kazakhstan, autour du futur de l'Union eurasienne depuis la crise ukrainienne. Et il est très peu sûr pour l'instant que les autres républiques soient intéressées à développer et à approfondir leur partenariat, surtout politique, avec la Russie.
Quelle est la réaction des Russes par rapport à cette Union eurasiatique ? Est-ce qu'ils sont enthousiastes en se disant que la Russie va devenir à nouveau un leader d'un nouvel ensemble géopolitique ? Ou est-ce qu'ils sont sceptiques ?
Alors c'est intéressant parce que les Russes sont extrêmement ambigus, l'opinion publique russe est extrêmement ambiguë sur la question. Les Russes soutiennent le président Poutine dans ses discours sur la grande puissance russe, le retour du prestige de la Russie et le droit de regard de la Russie sur ce qu'on appelle son étranger proche, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques, mais ils sont extrêmement sceptiques sur l'idée d'un partenariat avec les républiques centra-asiatiques qu'ils considèrent comme des républiques dangereuse, retardée, islamiste. Donc il y a une vraie xénophobie au sein de l'opinion publique russe qui est en fait très peu favorable à l'approfondissement des liens avec l'Asie centrale et c'est un des paradoxes sur lequel Poutine doit jouer lorsqu'il tente de favoriser l'Union Eurasiatique vis-à-vis de sa propre opinion publique.
Merci beaucoup Marlène Laruelle. Je rappelle que votre prochain livre, La Russie entre peur et défi, co-signé avec Jean Radvani, sortira chez Armand Collin le 24 février et l'on voit que l'eurasisme c'est une idée philosophique qui est devenue une idéologie et comme souvent les idéologies ont tendance à oublier la réalité. Merci beaucoup à vous d'avoir introduit un peu de philosophie dans l'univers brut et terrible de la géopolitique.
Merci beaucoup Michel Etchaninov. Je rappelle que votre dernier ouvrage paru s'intitule « Dans la tête de Vladimir Poutine » chez Actes Sud. Thierry Garcin, demain.
Demain, c'est la journée spéciale numérique et on va aborder les grands dossiers géopolitiques d'Internet avec notre invité Nicolas Arpagian qui est directeur scientifique à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice et franceculture.fr pour mettre un peu de philosophie, bien sûr, dans les relations internationales.